Laudetur Jesus Christus.
L'aéroport de Bukavu aux mains du M23 en RDC, l'avancée des rebelles vers le sud se poursuit. L'Union africaine appelle à un cessez-le-feu. Le président congolais depuis Munich dénonce le Rwanda qui soutient les rebelles. Toujours à Munich, le vice-président américain jette un froid parmi les Européens. Jill Evans a vivement critiqué ceux qui sont théoriquement ses alliés en estimant que les valeurs démocratiques sont en danger sur le continent. Le nouveau pouvoir syrien s'impose peu à peu dans tout le pays. Sur la côte méditerranéenne, fief des Alaouites, la communauté de l'ancien président Assad. Les combats se poursuivent. Reportage de sur place de notre envoyé spécial. Et puis au Liban, retour annoncé en politique de Saad Hariri. Il l'a annoncé devant ses partisans lors de la commémoration du 20e anniversaire de l'assassinat de son père Rafik Hariri, alors Premier ministre.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonsoir, mais avant de passer à l'actualité internationale, quelques mots sur la santé du pape. Après avoir assuré ses audiences publiques ce matin, il a été hospitalisé à l'hôpital Gemelli de Rome à cause de la bronchite dont il est affecté depuis plusieurs jours. Maintenant, il passera le week-end à l'hôpital. En conséquence, l'audience jubilaire de demain matin est annulée. Quant à la messe avec les artistes dimanche, elle sera célébrée par le cardinal Mendoza, le préfet du dicastère pour la culture et l'éducation. La prière de l'Angélus devrait être maintenu dimanche midi depuis l'hôpital. Plus de précisions sur notre site internet. Dans le restant de l'actualité, l'aéroport de Bukavu est tombé entre les mains du M23 après la chute de Goma. Le groupe rebelle armé poursuit donc sa progression vers le sud. La prise de ce site stratégique situé à une trentaine de kilomètres de la plus grande ville de l'est de la RDC augure du pire pour ce chef-lieu d'un million d'habitants, Delphine Allaire.
Oui, Bukavu, à la ville, est clairement menacée. Les troupes rwandaises alliées à celles du M23 s'y dirigent à grands pas. Quelques kilomètres à peine les séparent. Ce soir, c'est sans résistance qu'elles ont pu se saisir déjà de l'aéroport du Sud Kivu. Des forces armées congolaises y étaient pourtant positionnées. Alors la prise de Bukavu ouvrirait un contrôle total du lac Kivu, situé le long de la frontière rwandaise au groupe armé. Pour prévenir et anticiper le spectacle de désolation déjà observé à Goma fin janvier, les habitants de Bukavu prennent les devants, à savoir la fuite, baissent le rideau des magasins, exhortent dans une lettre à leurs autorités locales à ce que l'armée n'engage aucun affrontement en ville. Les soldats loyaux à Kinshasa, aidés de troupes burundaises, se replient déjà vers le sud-ouest de Bukavu, en direction du Burundi. Sur le terrain diplomatique, Xavier, l'Union africaine réunie en Éthiopie appelle à respecter un cessez-le-feu. Le sommet annuel de l'organisation s'ouvre demain, verra divers chefs d'État africains esquisser des sorties de crise possibles. Depuis Munich, où il se trouve pour la conférence sur la sécurité, le président congolais fait tout, lui, pour mobiliser la communauté internationale. Félix Tshisekedi dénonce les velléités expansionnistes du Rwanda, pays qu'il appelle à mettre à l'index.
Delphine Allaire. Et ses conditions de santé faisaient hier craindre le pire à ses avocats. Kizza Besigye, figure de l'opposition en Ouganda, en grève de la faim depuis lundi, est apparu affaibli devant un tribunal civil aujourd'hui à Kampala. L'homme de 68 ans est accusé par ailleurs de trahison et devrait être jugé cette fois par un tribunal militaire. Il encourt la peine de mort. Enlevé au Kenya, il dénonce depuis sa détention illégale, selon ses termes. Les Occidentaux, et tout particulièrement les Européens, ont les yeux fixés sur Munich, où se déroule actuellement la conférence sur la sécurité, à l'occasion pour les diplomates politiques et militaires de se retrouver. C'est l'Ukraine, bien sûr, qui est sur toutes leurs lèvres, mais le vice-président américain, Jill Evans, très attendu à la tribune, n'en a pas touché mot dans son discours ce matin. Il s'est livré, au contraire, à une critique en règle des Européens, dont les valeurs démocratiques sont, selon lui, en danger. À Berlin, Delphine Herbollier.
Si les Européens avaient encore des doutes sur la position américaine à leur encontre, ils sont désormais levés. Le vice-président J.D. Vance n'a pas mâché ses mots ce vendredi à Munich. D'après lui, la principale menace qui vise les Européens n'est pas extérieure, ce n'est ni la Russie ni la Chine, mais les Européens eux-mêmes, et plus précisément la perte de leurs valeurs démocratiques. Durant 20 minutes, le représentant américain a brossé un tableau des plus négatifs de l'Union Européenne, avec une liberté de religion menacée, une liberté d'expression affaiblie par la lutte contre la désinformation. Selon lui, le danger sujet le plus urgent est l'immigration de masse qui mène à des attaques comme celle d'hier à Munich. Il s'est aussi indigné que certains partis politiques ne soient pas invités à ce raout diplomatique à Munich, sous-entendu le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne. Quelques heures plus tôt dans la presse américaine, il avait ouvertement apporté son soutien à l'AFD à une semaine des législatives allemandes, une ingérence jamais vue entre les États-Unis et l'Allemagne. À Munich, ce discours sans complaisance a jeté un froid glacial dans l'Assemblée. Jed Evans n'aura parlé ni de la Russie, ni de la Chine, ni de l'avenir de l'OTAN. Berlin, Delphine Herbollier pour Radio Vatican.
Et ses propos sur la politique allemande et la démocratie en Europe n'ont pas été appréciés à Berlin, le gouvernement allemand estimant que ces critiques ne sont pas acceptables. À cette conférence est notamment présent le président ukrainien qui se dit prêt à rencontrer Vladimir Poutine si un plan commun est fixé au préalable entre les alliés de Kiev. Les discussions entre Américains et Ukrainiens vont bon train malgré le froid qu'a jeté le coup de fil de Donald Trump à Vladimir Poutine cette semaine. Et Volodymyr Zelensky a obtenu le numéro de téléphone direct du président américain qu'il peut appeler à tout moment, a-t-il dit aujourd'hui. Une chose ressort de cette conférence de Munich, les Européens doivent participer aux négociations. Le vice-président américain l'a dit ce matin, les dirigeants des pays nordiques et baltes l'ont affirmé, eux, aujourd'hui dans un communiqué commun. Pas question d'abandonner l'Ukraine et de rester à l'écart. Toujours à Munich, le président allemand a déposé des roses blanches sur les lieux de l'attente à la voiture Bélier d'hier. Le cardinal Marx, l'archevêque de la ville ainsi qu'un représentant de l'Église ont récité une prière. Selon le procureur en charge de l'enquête, l'auteur des attentats, un réfugié afghan, aurait agi pour des motifs religieux et islamistes. 36 personnes ont été blessées. Hier à Paris, s'est tenue une conférence internationale sur la Syrie. Présent sur les bords de Seine, le nouveau ministre des Affaires étrangères syrien, Assad Hassan el-Shibani, à l'occasion de faire le point sur les principaux défis auxquels la Syrie est confrontée depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, parmi lesquels la sécurisation du pays sur la côte où vit la minorité alaouite, dont est issue la famille al-Assad, les violences entre loyalistes de l'ancien régime et groupes armés se multiplient. Reportage de notre envoyé spécial Manon Chaplin.
L'attaque a eu lieu la veille sur un checkpoint en périphérie de Latakia. Ce soir-là, des motos sont arrivées, deux hommes chargés de Kalachnikov tirant en direction des agents de la sécurité nationale. Ces attaques sont de plus en plus fréquentes, explique Khalid Ismaël, déployé en renfort dans la zone.
La menace est tellement présente que nous devons désormais rester surveillés ici toute la journée.
Ces attaques non revendiquées seraient le fait d'un groupe armé, la Brigade de défense de la côte, c'est son nom, des loyalistes au régime de Bachar al-Assad qui ont refusé de déposer les armes. La communauté alaouite, dont est issue la famille al-Assad et la plupart de ses loyalistes craignent d'y être associés, explique un habitant.
La majorité des gens, ils sont en colère, ils ne veulent plus de sang, ils souhaitent vivre en paix.
En représailles, les assassinats, enlèvements et violences envers la communauté alaouite se sont multipliés. Mariam Atala, à la tête de l'association syrienne Pionnière, documente les différentes exactions.
Bien sûr, il y a des innocents qui se font tuer. On demande à ce que le nouveau gouvernement soit en mesure de contenir la situation, de rétablir la paix et d'assurer notre sécurité.
Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 425 personnes ont été tuées par acte de vengeance depuis la chute du régime. À l'attaquer, Manon Chaplin pour Radio Vatican.
20 ans que l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri a été assassiné. Pour commémorer cette disparition, plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées dans le centre-ville de Beyrouth autour de son fils, Saad Hariri, qui en a profité pour annoncer le retour du courant du futur dans la vie politique du Liban. À Beyrouth, Paul Khalife.
3 ans après son exil volontaire et la suspension des activités de son parti, l'ex-premier ministre Saad Hariri a annoncé son retour en politique à un moment crucial de l'histoire du Liban et du Moyen-Orient. Devant des dizaines de milliers de partisans venus de tout le pays, l'ancien chef du gouvernement a déclaré que le courant du futur, la plus grande formation sunnite du Liban, participera aux prochaines élections législatives dans 15 mois et à toutes les autres échéances. Cette démonstration de force montre que Saad Hariri, qui vit aux Émirats arabes unis, reste le leader sunnite le plus populaire, malgré son absence du Liban depuis janvier 2022, à l'exception de quelques passages rapides. Dans un discours chaleureusement applaudi, l'ancien Premier ministre a plaidé pour l'édification d'un État normal, afin que le Liban retrouve son rôle dans le monde, et a appelé à la fin de l'occupation israélienne de tous les villages libanais. Évoquant le projet de Donald Trump de transférer la population de Gaza, Saad Hariri a martelé que le problème ne peut pas être résolu aux dépens de l'Égypte, la Jordanie et l'Arabie saoudite. Le retour de Saad Hariri confirme la levée du veto saoudien et une volonté de Riyad, sponsor traditionnel des sunnites, de rendre à cette communauté son rôle central au Liban. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Voilà, c'est la fin de cette édition. N'oubliez pas, demain à 18h, heure de Rome, notre magazine hebdomadaire Vox Mundi. En attendant, l'actualité internationale et du Vatican revient lundi matin, 8h30. Très bon week-end à toutes et à tous.